L'assemblée des trois dynasties.
Du fond de ses appartements, la reine Clémence entendit les hauts hommes se rendre à l'assemblée. Le tumulte de leurs voix se répercutait sous les voûtes et dans les cours. La réclusion de 40 jours, que les rites du deuil imposaient à la reine, venait de prendre fin la veille. Clémence, ingénument, avait cru la date de la réunion choisie tout exprès pour lui permettre d'y assister. Aussi s'était-elle préparée à cette réapparition solennelle avec intérêt, curiosité, impatience même, et comme si elle reprenait goût à vivre. Mais à la dernière minute, un conseil de médecins, parmi lesquels les physiciens personnels du comte de Poitiers et de la comtesse Mao, lui avait interdit de s'exposer à une fatigue jugée dangereuse pour son état. Cette décision, en vérité, satisfaisait les divers partis de la cour, car personne ne se souciait de faire valoir les droits de Clémence à la régence. Pourtant, puisque l'on cherchait avec tant d'opiniâtreté dans les coutumes du royaume des précédents dont s'inspirait, on ne pouvait manquer de se souvenir d'Anne de Kiev, veuve d'Henri Ier, partageant le gouvernement avec son beau-frère Baudouin de Flandre par cette qualité indélébile qui lui avait été conférée par le sacre. Et l'exemple, plus proche encore de la reine Blanche de Castille, était présent aux mémoires. Mais le dauphin de Viennois, beau-frère de Clémence et le plus naturellement désigné pour la défendre, avait parti lié avec Philippe de Poitiers. Mais Charles de Valois, bien qu'il se donnât comme le grand protecteur de sa nièce, ne songeait qu'à travailler pour lui-même. Mais le duc Eudes de Bourgogne, qui était là, ainsi qu'il le déclarait en représentant de la succession de sa sœur Marguerite, souhaitait en premier chef l'éviction de Clémence. Resté trop peu de mois au trône pour s'y être fait connaître et y avoir pris ascendant sur les barons, la belle Angevine n'était déjà plus considérée que comme la survivante d'un règne bref, troublé et à mains égards calamiteux. Elle n'a pas porté chance au royaume, disait-on. Et si l'on tenait compte d'elle en tant que future mère, on lui marquait bien que comme reine, elle avait cessé d'exister. Enfermée dans l'aile du palais, elle entendit décroître les voix. L'assemblée entrait en séance dans la salle du grand conseil dont on fermait les portes. « mon Dieu, pensa-t-elle, pourquoi ne suis-je pas restée à Naples ?» Et elle se mit à sangloter en songeant à son enfance, à la mer bleue, à ce peuple grouillant, bruyant, généreux, compatissant à la douleur, son peuple qui savait si bien aimer. Pendant ce temps, Mils de Noyers lisait au baron le règlement de succession. Le comte de Poitiers avait pris soin de ne s'entourer d'aucun des attributs de la majesté royale. Son faux-de-steuil était au centre de l'estrade, mais il avait refusé qu'on le surmontât d'un dais. Lui-même était vêtu d'étoffes sombres et sans aucun ornement. Il semblait dire « Messeigneurs, nous sommes ici en conseil de travail ». Simplement trois sergents massiers se tenaient debout derrière son siège. Il assurait l'exercice de la souveraineté sans pour autant s'en prétendre investi. Mais il avait soigneusement préparé la salle et fait à chacun assigner sa place par les chambellans selon un cérémonial à la fois assez arbitraire et assez roide où les assistants retrouvaient les façons de Philippe le Bel. À la droite de Philippe était assis Charles de Valois et aussitôt après le connétable gaucher de Châtillon, ceci pour surveiller l'ex-empereur de Constantinople et l'isoler de son clan. Philippe de Valois était relégué à 6 rangs de son père. À main gauche, Poitiers avait mis son oncle Louis d'Evreux, puis son frère Charles de la Marche, empêchant de la sorte celui-ci de pouvoir se concerter avec Valois en cours de séance et revenir sur la parole par eux donnée 4 jours plus tôt. Mais l'attention du comte de Poitiers se tournait surtout vers son cousin le duc de Bourgogne, placé en retour d'estrade, et qu'il avait flanqué de la comtesse Mao, du dauphin de Viennois, du comte de Savoie et d'Anceau de Joinville. Philippe savait que le jeune duc allait parler au nom de sa mère, la duchesse Agnès, à laquelle sa qualité de fille de Saint-Louis conférait, même absente, un grand prestige sur les seigneurs. Tout ce qui touchait au souvenir de Louis IX était l'objet de vénération, et les rares survivants qui pouvaient témoigner de l'avoir vu ou servi, qui avaient recueilli sa parole ou reçu son affection, se trouvaient revêtus d'un caractère un peu sacré. Il suffirait à Eudes de Bourgogne de dire « Ma mère, fille de notre sire Saint-Louis, qui l'a bénie au front avant d'aller mourir en terre infidèle », pour bouleverser l'assistance. Aussi, afin de faire échec à cette manœuvre, Philippe de Poitiers avait fait surgir dans son jeu une pièce maîtresse et tout inattendue, Robert de Clermont, l'autre survivant des 11 enfants du roi canonisé, le 6e et dernier fils. Voulait-on absolument la caution de Saint-Louis ? Eh bien, Poitiers la produisait. Or, la présence de Robert de Clermont était d'autant plus marquante et impressionnante qu'il ne se montrait plus à la cour depuis bien longtemps. Sa dernière apparition remontait à près de 5 ans. Son existence était presque oubliée, et lorsqu'on s'en souvenait, nul n'osait en parler qu'à voix basse.